France Culture, 14h, Culture Science. Aujourd'hui, Continent Science, Stéphane Delisgorges.
J'ai toujours rêvé de connaître le futur, de voir comment le monde change, voir les progrès de l'humanité.
Pour ce rendez-vous de Continent Science, un peu spécial, ce lundi même, nous sommes d'une certaine manière en écho de la table ronde qui s'est tenue dans le cadre du deuxième forum de l'année vue par les sciences, forum qui s'est donc tenu le 22 février dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne. Le thème de cette table ronde est intitulé « Google, Finance, NSA, peut-on encore échapper aux algorithmes ?» Bonjour à tous. Je commencerai avant de présenter mes invités par un chiffre absolument massif qui va donner la dimension du problème. Aujourd'hui, qui que vous soyez, il faut que vous sachiez que 90% des informations transmises ou archivées dans le monde le sont sous forme numérique. C'est évidemment considérable. Surtout que tout de suite, il faut donner un corollaire, c'est qu'il y a quasiment l'impossibilité d'effacer quoi que ce soit. Donc c'est là pour très longtemps, quel que soit le support. Voilà. Alors on va essayer de définir ce que c'est qu'un algorithme, d'abord. Et évidemment, il y a une acception très précise. Et puis, ensuite, on essayera de voir comment ça s'applique dans différents domaines. Et enfin, on essayera de savoir s'il y a une distance ou une possibilité critique vis-à-vis d'un certain nombre d'entreprises qui deviennent franchement universelles. On peut évidemment penser à Google. Google qui est une espèce de captateur, puisque Google rachète tout. Google, bien sûr, ne paye pas ses impôts en Europe, mais surtout rachète tout, et en particulier des logiciels de santé, des logiciels de voyage, des logiciels pour les assurances. Bref, on va commencer en tout cas avec... en posant la question à Gérard Berry, qui est professeur au Collège de France et qui va nous dire, grosso modo, d'abord, ce que c'est qu'un algorithme.
Bonjour. Alors, oui, en France, on a l'habitude de discuter de sujets qu'on ne comprend pas. C'est une longue habitude, et en particulier d'informatique, où énormément de gens en parlent sans savoir ce que c'est. Et donc, je vais essayer brièvement de vous mettre un peu au courant. J'ai fait il y a 5 ans un cours au Collège de France qui s'appelait « Pourquoi et comment le monde devient numérique ?» Vous pouvez regarder sur le site du Collège, c'est sur Internet. Mais je vais essayer de vous faire un tout petit résumé de ça. Alors d'abord, l'informatique, c'est une science et une technique conjuguées, comme la physique d'ailleurs, qui sont les deux en même temps. Et c'est une science qui va extrêmement vite, comme vous le voyez, parce que ce n'est pas une science naturelle. C'est-à-dire que la physique ou la biologie, ça s'intéresse à étudier la nature qui préexiste. En informatique, on n'a pas ce problème, et c'est pour ça que les choses vont très vite, c'est qu'on fabrique les objets qu'on étudie en même temps. Ce n'est pas des choses qui existaient avant nous, quasiment. Donc ça explique beaucoup la vitesse. Hein. On va beaucoup plus vite, par exemple, que la médecine à cause de ça. Alors, l'informatique, il y a 4 grands domaines, en fait, de pensée dans l'informatique. Les données, les algorithmes et les programmes qui sont écrits dans des langages. Donc données, algorithmes, programmes... et puis, il y a aussi les interfaces, bien entendu, et puis les machines. Mais je ne vais pas tellement parler des machines, ça, c'est des choses que vous connaissez, plus ou moins, qui vont encore grandir. Je vais plutôt parler de ce qu'on fait avec. Donc, d'abord, les données. Alors, il y a une confusion assez courante entre données, informations et connaissances. Il faut comprendre qu'il y a 3 étages. Si je vous dis 20, ou si vous trouvez 20 dans un ordinateur, c'est une donnée. Si je vous dis 20 degrés de température, alors c'est une information. Et si je vous dis à 20 degrés, on est dans le confort, alors c'est une connaissance. C'est tout à fait différent. Les ordinateurs n'ont pas de connaissances, a priori. Ils n'ont que des données. Ils n'ont pas non plus d'informations. Ça, c'est notre vision d'une donnée comme étant de l'information ou de la connaissance. Donc ça, c'est très important. Et ces données sont collectées à l'heure actuelle à grande échelle dans le monde entier. Et le passage de la donnée à l'information, c'est un problème extrêmement difficile. Par exemple, on dit que la NSA collecte toutes les données. Oui, est-ce qu'elle connaît toutes les informations? Non, ça c'est pas le même problème. Alors, les algorithmes, c'est quoi? Ce sont toutes les méthodes automatisables de calcul sur les données. Donc, c'est une notion qui remonte vraiment à l'Antiquité. Hein. On dit que Pythagore a inventé l'algorithme de A2 plus B2 égale C2, mais ce n'est pas vrai, c'était connu bien avant. Il a inventé les maths parce qu'il a inventé le fait qu'il fallait prouver cet algorithme. Alors, les algorithmes, il y en a énormément. Il y en a des milliers et des milliers pour faire un peu tout ce qu'on veut, pour faire des images, du son, des réseaux. Tout ce que vous touchez sur un ordinateur ou un téléphone ou n'importe quel objet un peu récent est fondé sur des algorithmes. Alors, il y en a des milliers et des milliers, mais ils ont tous une pensée commune, c'est qu'est-ce qu'on peut faire avec une machine. Donc, cette pensée commune, c'est elle qui fonde la science informatique et qui la fait différer de la physique ou des maths, avec lesquelles elle a des relations très, très fortes, bien entendu, mais ce n'est pas les mêmes façons de penser. Alors, certains algorithmes sont dus à des mathématiciens, on en parlera tout à l'heure, mais pas forcément tous. Alors, il y a un grand changement dans les algorithmes. Alors, on apprenait, par exemple, à l'école, on apprend à faire des additions, on apprend à faire des multiplications, des divisions. Ce sont des algorithmes. Mais ce sont des algorithmes, je dirais, jusqu'en l'an 2000, les algorithmes étaient des choses qu'on faisait d'une seule main, avec un crayon. Un algorithme, c'était l'imitation d'un homme au niveau conceptuel. Maintenant, ce n'est plus vrai du tout. Un algorithme, ça va être réalisé par un très grand ensemble de machines qui communiquent entre elles. Et ça, c'est complètement différent au niveau intellectuel, au niveau technique, et c'est beaucoup plus difficile. Alors, quand je dis beaucoup de machines, ben, par exemple, les fermes de calcul, il n'y en a aucune en Europe. Les grandes fermes de calcul comportent 500 000, 1 million d'ordinateurs, et par exemple, c'est ce qu'il faut pour un moteur de recherche. Hein. Les algorithmes, c'est donc plus difficile et plus fragile maintenant qu'on les appelle répartis à travers le monde. Et donc, il y en a plein comme ça. Et par exemple, quand vous téléphonez, quand vous faites l'Internet sur votre téléphone, vous avez des algorithmes dans votre téléphone, des algorithmes dans votre serveur que vous appelez et des algorithmes pour faire la communication entre les deux et la coordination entre les deux. Les machines, vous les connaissez, les programmes et langages. Alors là, il y a une confusion souvent. Un algorithme, c'est un objet un peu intellectuel. Un programme, c'est un vrai objet. C'est comment écrire la chose, l'algorithme, pour que l'ordinateur sache exécuter. Je personnifie l'ordinateur, c'est une machine, n'oubliez jamais. L'algorithme, souvent, s'écrit en langage mathématique. Mais un langage mathématique, c'est inopérant pour parler à un ordinateur. Il faut ce qu'on appelle des langages de programmation. C'est aussi un domaine très difficile. Et le passage de l'algorithme au programme est vraiment un des points les plus durs. En informatique, il est très facile d'écrire des programmes qui marchent un peu ou des programmes qui marchent presque. Il est beaucoup plus difficile de faire des programmes qui marchent vraiment. Alors, un exemple de programme qui marche un peu, à peu près tout ce qu'il y a sur votre téléphone. Vous voyez, les applications n'arrêtent pas de se crasher. Et vous avez une version sans arrêt parce qu'il y a des bugs de corrigés de partout. Un exemple de programme qui marche vraiment ou qui doit marcher vraiment, ben, conduire votre voiture ou un avion. Les voitures, c'est intermédiaire à l'heure actuelle. Ça ne marche pas vraiment, mais ce n'est pas trop mal non plus. Bon, mais on peut faire beaucoup mieux que ça. Alors ça, c'est très important. Pourquoi est-ce qu'il y a une difficulté? Parce que dans l'écriture de programme, on écrit sur une machine qui est immensément stupide, mais extraordinairement rapide. Donc, un ordinateur, ça fait des milliards de choses par seconde, avec une conscience professionnelle totale, un humour absolument nul. Et si jamais vous avez écrit un seul truc de travers, ça va le faire jusqu'au bout. Donc, moi, la meilleure définition que je donne de l'ordinateur, c'est que c'est le plus extraordinaire amplificateur d'erreurs possible. Donc, si on lui dit la bonne chose, c'est absolument parfait. Si on lui dit quelque chose de faux par rapport à ce qu'on pensait, hein, et c'est très facile à faire, ça va aller n'importe où. Donc, c'est ça, les bugs.
Est-ce que ça, c'est un bug?
Oui, ça, c'est un bug.
D'accord.
Ce qu'on appelle un bug. Le mot vient d'un insecte qui s'était coincé dans les rouages d'un premier ordinateur, mais qui était d'ailleurs programmé par la créatrice des langages de programmation qui s'appelle Grace Hopper, qui était une femme.
Gérard, est-ce que je peux vous solliciter sur un point? Parce que, évidemment, on va avoir une évaluation qui va être pour partie extrêmement négative d'un certain nombre de développements de l'informatique, ou en plus particulièrement, ou de façon encore plus générale, de cette espèce de grand réticule universel qui s'appelle le web. On peut peut-être dire simplement que, en particulier pour beaucoup, beaucoup de sciences contemporaines, l'algorithmique a permis de modéliser dans des sciences qui, sans cet outil-là, aurait évidemment été privé d'outils heuristiques considérables. On peut penser à la climatologie, on peut penser aux gens qui essaient de comprendre la turbulence, on pourrait multiplier les objets. Il y a donc un efficace et une grande positivité des algorithmes, à tout le moins pour la connaissance.
Ah ben, il y a une grande positivité dans beaucoup de domaines. Dans la connaissance, par exemple, on ne peut pas faire d'astrophysique sans informatique, sans physique non plus. On ne peut pas faire maintenant... l'informatique rentre à grande force dans la biologie parce qu'elle permet effectivement de modéliser profondément les objets. Et pas forcément les gens, hein, attention, hein, mais les processus. Et donc, ça, c'est extrêmement positif. Mais il y a des choses absolument positives dans toute notre vie courante, partout. Toute la communication est informatique, ça marche beaucoup mieux qu'avant, on ne pouvait pas du tout faire tout ça avant. Tout le son, la vidéo, tout ça, c'est informatique. Et les enfants ne connaîtront jamais les méthodes analogiques. Les méthodes informatiques sont totalement supérieures aux méthodes analogiques, bien que les gens croient le contraire des fois. Mais on peut prouver ça facilement. Donc oui, il y a énormément de côtés positifs partout.
Bien, alors pour conserver notre pas aussi, maintenant... Il faut que je vous présente Nicole El-Khaoui. Nicole El-Khaoui est mathématicienne. Une mathématicienne qui a beaucoup travaillé dans ce qu'on appelle les mathématiques qui s'occupent du stochastique. Elle a été, on va dire, tout à fait pionnière d'une certaine manière, puisqu'elle a appliqué ces mathématiques-là, qui sont des mathématiques à base de statistiques et de calcul des probabilités, à la finance, tout simplement. Alors, il y a un double parcours. Elle a formé. On les appelle des Kant, je ne sais pas si je prononce bien,
hein. Oui.
Des quantificateurs, mais les
ingénieurs quantitatifs.
Voilà, les anglo-saxons disent des quant. Et petite parenthèse, il y en a un tiers au monde qui sont français. Et donc, un diplôme absolument et un cursus absolument célébrissime, universellement connu, dirigé donc par Nicole El-Khaoui, il y a cette application. Donc, des algorithmes à la finance. Alors, je vais lui demander, pour aller vite, dans un premier temps, comme j'ai sollicité dans ce sens Gérard Berry, de nous dire, nous faire comprendre ce que sont que ces mathématiques appliquées à la finance. Surtout qu'il y a des distinguos très importants à faire, en particulier, puisque ça s'appelle, et je vous lance comme ça, la question de ce qu'on appelle les produits dérivés. Alors, qu'est-ce à dire que appliquer les mathématiques aux finances, Nicole El-Khaoui?
Alors, je pense que la formulation n'est pas en ces termes. En fait, il y a eu des...
Corrigez.
Non, il y a eu une logique à l'intérieur du système financier qui a amené un certain nombre de transformations, et en particulier dans la gestion des risques. Une révolution, on peut dire, a eu lieu, une révolution conceptuelle a eu lieu dans les marchés dans les années 70, qui, elles, vont utiliser des mathématiques. Donc, en deux minutes, je voudrais juste évoquer un tout petit peu le contexte, parce que, d'une certaine manière, je pense qu'il y a une forme d'actualité au contexte dans lequel ces choses se sont développées. À l'origine... C'est la grande transformation du système financier qui a commencé dans les années 70 avec la libéralisation du dollar et l'arrêt de la convertibilité du dollar avec l'or qui a induit des fluctuations très importantes des taux de change. Donc d'abord aux États-Unis sur le cours du dollar, parallèlement, la dérégulation financière et l'entrée dans un système extrêmement libéral a amené à la dérégulation aussi des taux d'intérêt et d'un grand nombre de facteurs de l'économie. Et assorti à ce genre de transformation, les faillites spectaculaires, par exemple, ont pu avoir lieu dans les caisses d'épargne aux États-Unis et ailleurs. Donc on est dans des contextes qui ressemblent beaucoup à ce qui se passe maintenant. Et qu'ont proposé en fait le système financier, ils ont proposé des moyens pour les agents économiques d'arriver à se dépatouiller un petit peu avec cette variabilité des cours. Et donc on a proposé l'existence de marchés financiers dans lesquels il était possible de faire des opérations à terme. Qu'est-ce que c'est qu'une opération à terme? Vous les connaissez bien, en fait c'est exactement la même chose qu'une promesse de vente. Si vous achetez un appartement, vous ne le payez pas tout de suite et vous ne vous engagez pas fermement, mais le prix est donné et en fait, il sera réalisé plus tard. Ça, c'est typique de ce qu'on appelle l'activité à terme. Et donc, ça permettait aux agents économiques de pouvoir se positionner sur le cours du dollar, sur un certain nombre de caractéristiques comme les taux d'intérêt, le cours d'une action dans le futur. Et c'est le début de ce qu'on va appeler la financiarisation, d'une certaine manière, de l'économie, qui est extrêmement liée à la déréglementation, donc au fait que tout bouge. Et si vous regardez des cours, vous voyez bien qu'il y a des tendances, mais qu'il y a d'énormes fluctuations autour de ces tendances. Et donc ça, c'est une période 70, des années 70. En 1973, ouvre à Chicago le premier marché organisé de contrats à terme et d'options. Donc vous fixez un prix dans le futur et éventuellement, vous avez la possibilité de vous assurer contre la chose que vous voulez acheter, soit pas trop au-dessus du prix ou trop en dessous. À quoi sert un marché organisé? Ça sert à fiabiliser les transactions, ça sert aussi à les standardiser et à donner l'accès à l'information. Les prix sont publics et donc c'est quelque chose qui induit une facilité en théorie d'intervention beaucoup plus importante. Alors, juste d'abord, ces choses sont vieilles comme l'Antiquité. Tout le monde sait que les agriculteurs vendaient déjà à terme leur récolte et pouvaient acheter éventuellement des options. On en trouve des traces dans le passé. Et donc, c'est la généralisation de ce genre d'activité à tout type de sous-jacent, la monnaie, les devises, les taux d'intérêt, les actions, les futurs et un grand nombre de choses qui va marquer l'explosion de ces marchés. En France, et ça c'est très important un petit peu dans la vision qu'on peut avoir et en fait dans mon histoire qui rencontrait la finance de manière tout à fait par hasard, si vous vous souvenez la période 70-80, c'est une période, 80 la gauche arrive au pouvoir, l'économie est très encadrée en France, les taux d'intérêt, le taux de change, serpent monétaire, tout ça c'était extrêmement présent et en fait une loi de 1986 décide de libéraliser une partie de cet aspect, dans le même sens que la tendance anglo-saxonne, en créant un marché financier qui s'appelle le MATIF, qui est maintenant le NYSE Euronext, et puis un marché d'options. Et donc, la France s'ouvre avec 12 à 15 ans de retard par rapport aux États-Unis. Et un certain nombre de banques comprennent très vite que... Il y a un enjeu technologique qui est associé à ça et qui est extrêmement important. L'informatique rentre au cœur des marchés, ce qui était déjà le cas aux États-Unis, mais plus timidement. Je vous rappelle qu'en 88, IBM était encore le grand détenteur des énormes ordinateurs et que dans les entreprises, il fallait demander à l'informaticien des heures de calcul et ça leur donnait beaucoup de pouvoir. Donc, dans une interview aux Échos en 95, Daniel Bouton, qui est le PDG de la Société Générale à l'époque, dit « Les marchés sont la forme caractéristique du pouvoir de l'âge de l'information, combinant l'instantanéité et la mondialisation, les télécommunications ou l'informatique, sont l'instrument du pouvoir qui permettent aux traders d'être interconnectés. » Donc ici, il y a deux choses importantes que l'ASG a beaucoup pris en compte. C'était l'importance de la technologie et de l'informatique. Donc 88, c'est le passage au PC, c'est juste la transition. Donc ce n'était pas aussi évident que ça d'anticiper. Et ils misent donc sur une activité qui va être extrêmement technologique. Donc les ingénieurs en particulier rentrent en force à la Société Générale pour prendre position dans ce marché des produits à terme qui va être un élément en fait, de développement extrêmement important. Donc on évoquait tout à l'heure là, ce que veut dire des données et de l'information. En fait, ce qui se passe, et vous l'imaginez bien, si le prix affiché d'une transaction dans 3 mois est connu de tout le monde, eh bien, ça va pouvoir servir ceux qui vont du coup pouvoir... utiliser cette information directement, mais ça va permettre aussi aux gens de spéculer, c'est-à-dire de regarder si objectivement ce prix est loin ou proche ou pas de ce qu'eux, ils imaginent sur l'évolution future des marchés. Donc comme dans tout, comme dans l'informatique, comme dans les programmes, certaines choses qui peuvent être un outil sont aussi éventuellement utilisées de manière massive autrement, et donc c'est un certain nombre de trucs qui auront lieu dans les marchés financiers. Je vais juste dire un mot de la vision de l'assurance et des contrats d'assurance donc sur ces produits à terme. Vous pouvez bien imaginer que si vous devez acheter des dollars dans le futur, vous voulez le faire parce que vous avez une raison particulière d'avoir ces dollars présents dans votre activité économique dans 6 mois, dans 1 an ou dans 2 ans. Bon, et donc vous allez payer une prime pour faire ça, un contrat d'assurance, ça se paye, et après ça, vous êtes assuré contre ce qui va se passer. Mais évidemment, surtout si le marché est haussier, celui qui vous vend le contrat d'assurance, lui, il va prendre les risques à votre place, et donc la question de comment je vais gérer ces risques a été un enjeu majeur de cette transformation dans les marchés. L'idée, c'est que dans le cas des marchés financiers, vous n'avez qu'un coup, le dollar il va monter, descendre, fluctuer, faire un certain nombre de choses, mais vous ne pouvez pas répéter l'opération. Vous vendez plusieurs contrats, mais ils n'ont pas les mêmes caractéristiques et des choses comme ça. Et donc, l'idée de j'estime la valeur moyenne du coût, des choses comme ça, est une idée qui ne fonctionne pas, en tout cas pas si vous voulez faire ça à grande échelle. Et donc, la révolution vraiment conceptuelle, et je pense qu'il y a des choses de même nature à faire dans la vision des risques. Donc là, la question, c'est comment je gère le risque supporté par celui qui vend le contrat d'assurance. La vision révolutionnaire proposée en 73, en fait par des académiques, en dehors du milieu, c'est toujours intéressant, ça aide de dire, ben, en fait, la question, c'est pas combien en moyenne je peux perdre, parce que ça ne permettra pas de construire une industrie, c'est est-ce que j'ai un autre moyen de réduire mon risque à la fin. Et donc l'idée, ça a été de dire, ben, si je suis en défaut parce que le marché monte beaucoup, ben, je pourrais investir la prime dans le dollar, acheter des dollars, les revendre, etc., pour essayer de faire des placements qui, à la fin, me rapportent à peu près ce que je risque de devoir à payer. Donc l'idée, plus du tout d'estimer des risques, l'idée, c'est de couvrir dynamiquement les risques, qui permet de réintroduire une notion du temps très particulière. Le temps devient l'instrument de la réduction des risques en intervenant de manière fréquente dans les marchés. Donc la fréquence dans les produits dérivés, c'est la journée sur le bilan, et sur l'ajustement des transactions, c'est, sauf si le marché est extrêmement chahuté, c'est 2, 3 fois ou 4 fois par jour. Donc on n'est pas à l'échelle de la haute fréquence qui s'est développée parallèlement depuis les années, on va dire 2002-2003, sous l'impulsion des régulateurs qui ont autorisé la création de marchés avec beaucoup moins de régulation que les marchés institutionnels, et donc qui relèvent en fait d'une activité qui est beaucoup plus une activité de placement ou d'investissement, qui est naturellement assez différente. Je ne suis pas une spécialiste de la question, mais toutes les choses s'enchaînent de manière très concomitante. Donc avec ces nouvelles idées, donc jusqu'à maintenant l'idée est simple, on assure contre la montée du dollar, donc on achète des dollars. La seule question, et tout d'un coup ça prend beaucoup de concepts de maths et de choses comme ça, c'est combien on en achète et comment on fait le modèle et en quoi est-ce qu'il est bon, etc. Et en fait, c'est là que les ingénieurs quantitatifs ont joué leur rôle. Donc c'était pour essayer de montrer comment quantifier les risques. Donc là, il y a des algorithmes, des méthodes de calcul et surtout, il y a des méthodes, des outils mathématiques sophistiqués liés au mouvement brownien et beaucoup de nouvelles choses, enfin, choses très proches en physique, qui permettaient de prendre en compte ceci pour une vraiment courte période de temps. Donc on n'est pas en train de faire un modèle pour 10 ans, même si le produit dérivé a 10 ans de maturité. On le fait tous les jours et tous les jours on utilise l'information donnée par le marché pour recommencer. Ça a demandé énormément de technologie et d'algorithmes et de nouvelles méthodes. Beaucoup de progrès ont été faits sur ce qu'on appelle les méthodes numériques et de Monte Carlo qui servent à autres disciplines. Et c'est comme ça qu'il y a un lien avec les facultés de sciences dans lesquelles je travaille et sur lesquelles on travaillait sur les processus qui évoluent au cours du temps. Donc le temps est un élément stratégique dans les marchés financiers et en particulier différentes échelles de temps induisent différents modèles et différentes manières de réagir. Alors derrière ça il y a la crise, il y a un grand nombre de choses, il y a la vision des risques agrégés que met en place le régulateur. Là on est au cœur de la dimension humaine des marchés, des enjeux ben, financiers, technologiques. Beaucoup de problèmes sont associés au libéralisme aussi, où on voit la concentration et puis enfin, un grand nombre de problèmes qu'on ne pourra pas évoquer en 10 minutes. Mais je voudrais revenir sur la question de départ. L'évolution de la monnaie, la vision de la monnaie a été un élément déterminant de cette évolution des marchés de haute technologie. Et sur certains aspects, la France en formation est très bonne, mais aussi dans la gestion des produits dérivés. Elle n'a pas été la plus exposée au moment de la crise. Mais pour moi, la question maintenant, c'est dans 5 ans, les gens disent qu'une grande partie de la monnaie, de la monétique, passera par Internet, non pas nécessairement sous la forme d'une nouvelle monnaie, mais dans des structures où les transactions auront lieu directement par les téléphones portables sur Internet. Et de quelle manière il faut penser le risque financier, de quelle manière il faut organiser la société le jour où finalement des gens autres, on peut dire que les acteurs traditionnels des marchés financiers, des systèmes financiers pourront être en prise dans ce genre de choses. Ça fait pour moi partie à la fois des questions des algorithmes mais des transformations fondamentales qui vont avoir lieu. Une question, par exemple, est-ce que, notamment sur les risques, on peut avoir des idées nouvelles, aussi révolutionnaires, qu'ont été les idées de Black-Scholes dans la gestion des produits dérivés?
Alors, toute petite question avant de passer la parole à Jean-Gabriel Ganassia, Nicole El-Karoui. Vous me disiez au préalable de cette réunion que très souvent, les gens ont du mal à comprendre. On a accusé, et bien sûr, à un moment, et en particulier pour la crise financière 2008, on a accusé en particulier un certain nombre donc, de mathématiciens travaillant dans la finance d'être co-responsables, d'une certaine manière, de cette crise. Et puis, vous me disiez au préalable, encore une fois, de cette rencontre, que l'activité, en tout cas, de ces mathématiciens qui travaillent pour la finance n'est jamais de prédire. Vous l'avez explicité en parlant donc des évaluations des capacités et des mouvements vis-à-vis du risque sur les produits dérivés, qui n'a rien à voir bien sûr avec le trafic à haute fréquence où là les choses sont très rapides. Donc comment vous recevez, et puis on va laisser votre réponse en pierre d'attente pour avoir le sentiment des autres, comment vous recevez cette critique de la responsabilité de ces mathématiciens travaillant pour la finance dans les crises? Comment pouvez-vous répondre à ça?
La première des choses qu'on peut dire, c'est qu'on y était. Donc, on était dans le système pour faire une activité assez spécifique, l'activité oui. des quants. On a une responsabilité globale, mais plutôt de technicien que de promoteur, etc. Donc la question de la finance, ce que disent un peu les mathématiciens, c'est évidemment l'avantage des maths, c'est que ça met des hypothèses quelque part. Hein, et en général, ça dit que si les hypothèses sont pas satisfaites, ça devrait pas marcher. Et l'une des conséquences de cette modélisation, ça a été que l'utilisation, entre guillemets, des modèles, avec beaucoup de bémols, parce que la partie modélisation est en fait très faible, ça représente 10% du temps de travail d'un quant en général, contre 90% d'implémentation. L'idée, ça a été un petit peu de dire on sait gérer les risques, on le savait sur le dollar, les actifs négociables, on l'a fait sur les dérivés de crédit, des choses comme ça, qui avaient une structure radicalement différente. Mais les modèles ne résolvent pas les problèmes d'une certaine manière. Ils résolvent un problème bien spécifique, ils résolvent en partie un problème bien spécifique, c'est sûr qu'on a... on n'a pas un pouvoir énorme d'agir sur les volumes qui sont traités, sur...
Vous disiez plus que ça.
D'une certaine manière, on comprend mieux un certain... D'abord, il faut quand même dire, exactement comme on l'évoque, sur les algorithmes, contrairement à ce qu'on pourrait croire, les risques financiers sont 100 fois mieux compris, connus et décryptés maintenant que quand on a commencé il y a 20 ans. Ça fait partie de l'intérêt. Mais après, les marchés et la finance, c'est un monde humain.
C'est ça.
Sur lequel les décisions sont prises par des hommes, dans un contexte économique libéral, où finalement le problème numéro un, c'est plutôt de faire du fric que de faire autre chose. Et voilà. Alors, est-ce qu'on ne devait pas y être?
Non, mais en tout cas, il y a quelque chose de plus précis aussi qui est que vous signalez. Vous dites que c'est fait par des humains et aussi c'est les champions de la niaiserie, en particulier parce que dès qu'on voit qu'une valeur quelconque prendre beaucoup d'intérêt, tout le monde s'y précipite. Et là, évidemment, tuer la poule aux œufs d'or, d'une certaine manière. Donc il y a aussi une espèce de niaiserie humaine sous-jacente, et ce n'est pas avec toutes les intelligences de vos algorithmes.
Enfin, bon, là-dessus, on a 10 minutes et un quart d'heure, mais oui, il y a beaucoup de choses à dire sur l'appréciation. Comment est-ce qu'on juge l'activité, en particulier comment les gens individuellement... Est-ce que l'originalité est bien vue dans les marchés? En fait, non. La question est clairement non. Donc voilà, il y a beaucoup de questions auxquelles on pourra répondre.
On va en tout cas garder, parce que je pense que Gérard aura quelques sentiments là-dessus, on va garder en pierre d'attente cette question de la responsabilité de ceux qui mobilisent des algorithmes, mais en particulier donc les algorithmes dans le cadre de la finance. Alors nous voilà maintenant face, avec Jean-Gabriel Ganassia, devant un énorme paquet, si je puis dire encore, une grosse enveloppe, puisque Jean-Gabriel Ganassia est... pour dire vite, un spécialiste d'intelligence artificielle, mais aussi dans la façon dont on peut avoir de le présenter, il est aussi mobilisé par l'éthique vis-à-vis de toutes ces questions. Alors, là encore, je vais le lancer. Tout simplement, à partir de cette évidence absolument massive, c'est le cas de le dire, puisque, comme je le spécifiais au début, 90% des informations qui sont gardés en mémoire maintenant sur notre planète, le sont sous forme informatique. Alors, on peut partir de ces bases de données, on n'a rien avec des bases de données. On peut dire que ce sont des éléments, d'une certaine manière, et que très vite va arriver la question du traitement de ces bases. Est-ce qu'on peut amorcer notre propos de cette façon, Jean-Gabriel Ganassia?
Je vous propose... avant d'amorcer le propos sur le traitement des données, de donner un aperçu sur la quantité des données qui sont stockées. Et puisque nous sommes dans une maison qui est plutôt dédiée à la culture et aux livres, j'ai pris un petit exemple. Un livre, je veux dire, ça fait 1 million de caractères, ça fait déjà pas mal pour écrire 1 million de caractères. Alors, la Bibliothèque nationale de France contient dans le catalogue des livres imprimés à peu près, je crois, 13 millions, 14 millions de livres. Et en quantité d'informations, donc, ça fait environ une quinzaine de ce qu'on appelle des téraoctets. Téraoctets, c'est ce que vous avez à peu près sur votre disque dur aujourd'hui.
Un ou deux téraoctets, c'est un disque dur externe courant. Quoi,
ouais. Voilà, c'est ça. Alors, ça, c'est la BNF que vous avez à côté de vous. Et quand on parle de fouilles de données, aujourd'hui, quand on parle de ces traitements massifs de données, on travaille sur des pétaoctets. C'est-à-dire, alors je vais prendre comme unité maintenant la Bibliothèque nationale de France, la BNF, vous voyez. L'unité, c'est la dizaine de téraoctets. Aujourd'hui, on travaille sur des pétaoctets, vous voyez, ce sont à peu près des milliers de BNF. Voilà.
Et la quantité. C'est affreux ce mot, hein, pétaoctets. Bon.
Aujourd'hui, on parle de masse de données, puisque vous avez parlé de masse. La masse de données, ça se résume souvent à ce qu'on appelle les 3 V, la vélocité. La volume et la variabilité. Donc le volume, c'est effectivement de l'ordre de milliers de BNF. Alors pour le web aujourd'hui, on dit que en 2012, il y avait à peu près, on a estimé la quantité totale d'informations qui était de l'ordre de quelques zeta-octets. Un zeta-octet, c'est 1 million de pétaoctets. Vous voyez, c'est alors ça vous dit le web, c'est 1 milliard de BNF. Et alors la vélocité, sont les transformations. Alors pour donner un petit exemple, Twitter, ça produit à peu près 7 téraoctets par jour. Alors, il y a aussi des données astronomiques. Les scientifiques produisent énormément de données. Alors, c'était une image, les données astronomiques. Aujourd'hui, le radiotélescope qui est en Australie, qui a été ouvert dernièrement, il produit en données brutes à peu près 7000 téraoctets par minute. Et ensuite, alors bien sûr, il y a beaucoup de données inutiles, et on distille ça, et le distillat par jour, c'est 50 téraoctets, c'est-à-dire à peu près 10 BNF par jour qui sont produites par le petit télescope.
Alors, il faut peut-être qu'on avance, Jean-Gabriel.
Tout ça pour dire donc que ce sont des quantités énormes. Alors après, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va essayer d'exploiter ces masses tout à fait considérables de données. Donc, les techniques sont issues de la statistique, des techniques d'apprentissage, etc. Et qu'est-ce qu'on va essayer de faire? On va essayer de trouver à la fois des comportements moyens pour faire, par exemple, des exploitations commerciales, pour voir le profil d'un un utilisateur, mais aussi essayer de détecter des événements imprévus, des choses étonnantes. Par exemple, est-ce qu'on peut, sur ces grandes quantités d'informations, repérer qu'il y a un complot qui est en train de se nouer, hein, c'est-à-dire que tout d'un coup, il y a des gens qui parlent dans une langue tout à fait inconnue, qui vont cacher des choses. Alors, ce que ça veut dire, c'est que dans cette espèce d'immense bibliothèque qui est aujourd'hui présente, il faut se repérer. Et pour se repérer...
Et c'est pas facile.
Bon. C'est pas facile. Et pour se repérer, donc, on a essayé au départ de faire des catalogues. Mais ça, c'était très difficile parce que ça prenait beaucoup de temps. Et c'est là où Google est arrivé. Très rapidement, ils ont compris qu'il fallait automatiser ces catalogues. Et c'est la seule façon de se repérer à l'intérieur de ça. Alors, comment ça marche? Très rapidement, peut-être pour expliquer les problèmes. Il y a trois choses. La première chose, c'est qu'il y a des robots qui aspirent en continu l'information qui est produite sur le web. Alors vous ne les voyez pas, ça s'appelle les crawlers, hein, et la nuit, enfin le jour d'ailleurs, enfin c'est sur le monde entier, on ne sait plus si c'est la nuit ou le jour, ça prend toute l'information. Ensuite, ça stocke l'information, et la deuxième chose, c'est que ça va indexer l'information, c'est qu'on va prendre les mots, alors pas tous les mots, on va prendre les mots qui sont ni trop rares ni trop courants, et à partir de ça, on va mettre tous les documents dans lesquels ils apparaissent. Puis ensuite, bien sûr, pour chaque mot, on a une liste de documents, elle est très grande, et il faut hiérarchiser les autres. Et là, c'est le troisième point, et c'est le point important, c'est celui qui va poser des problèmes, c'est ce qu'on appelle le page rank, c'est-à-dire qu'il va falloir organiser. Alors, on parle de documents ou de pages, hein, c'est là où l'information est située. Et là, l'idée de Google, qui a été assez extraordinaire, c'est de construire cela à partir des citations mutuelles. Et donc, c'est un algorithme, hein, on a parlé tout à l'heure, hein, qui suppose, hein, que le web, on va le parcourir de façon aléatoire et en fonction du nombre de sites qui pointent sur un document, on va lui donner un rang plus important. Alors, pourquoi est-ce que je dis ça? C'est parce que ça explique bien ce qu'est le monde aujourd'hui. C'est-à-dire que pour être connu, il faut avoir un page rank élevé. Pour avoir un page rank élevé, il faut être cité énormément. Alors, bien sûr, il y a tout un tas de stratégies qui ont été employées pour arriver à cette reconnaissance. Et il y a des stratégies au départ, hein, qui étaient assez triviales. Hein. C'est-à-dire qu'on pouvait, par exemple, hein, inventer des mots et les mettre des mots blancs sur fond blanc. Alors ça a été ensuite annulé. Et ensuite, on a inventé des fermes de liens. C'est-à-dire qu'il y a des sites qui se citent mutuellement et donc qui vont avoir un très haut taux de reconnaissance. Et ensuite, vous pouvez payer pour être cité par ces sites eux-mêmes. Et donc, ça va hausser votre taux de citation.
Alors, ça veut dire aussi... peut-être préciser une chose là à cette occasion. Hein, parce que la malice de Google, d'abord, a été la gratuité, on peut dire ça, pour rajouter quelques petits points d'information avec cette partition que vous connaissez bien, c'est-à-dire tout ce qui est sur la colonne de gauche est évidemment gratuit et vous offre des liens pour aller après, donc une question que vous avez posée, vers des pages informées. Et sur la droite, c'est la pub, la fameuse muraille de Chine, où là, évidemment, selon une certaine bourse, des commerciaux sont là pour happer possiblement l'acheteur. Hein. Petite précision. Hein.
Oui, alors ça, c'est très important parce que ça veut dire que le Google est en principe gratuit.
C'est
on
ça,
a l'impression, c'est un dollar, c'est-à-dire quand on fait des recherches, on n'a pas à débourser d'argent. Mais dans le monde, il n'y a rien de gratuit. Ce qui se produit, c'est que ce sont nos regards, c'est-à-dire la fréquence à laquelle on va sur Google, qui vont se rémunérer, ils vont se rémunérer effectivement par ces liens de publicité qui sont assez discrets, mais qui sont tout à fait présents. Et donc, tout ça, bien sûr, ça a donné naissance à, plus généralement, sur Internet, à une forme d'économie qui se construit sur la publicité. On est dans des sociétés de consommation, on pourrait dire de post-consommation, parce que au 19e, hein, au 20e, hein, on essayait de produire à petit prix. Pour ça, on va standardiser, on va avoir des exemplaires. Par exemple, on fait un livre, on va s'intéresser aux best-sellers que beaucoup de gens vont acheter, c'est ça qui va rapporter. Tandis que maintenant, ce qu'on peut faire avec les techniques algorithmiques, c'est s'intéresser à des petites niches et à essayer de proposer à chacun des choses qui vont l'intéresser. On va segmenter les marchés. Et pour ça, bien sûr, on a besoin, hein, de faire appel à ces techniques de fouille, de traitement de données tout à fait massives. Hein,
c'est ce qu'on appelle le self-tracking, alors, dans ce cas-là, où on essaye d'avoir un maximum d'informations sur, mettons, un individu, par exemple, pour connaître ses préférences, pour connaître un certain nombre de choses qui appartiennent à son identité. Jean-Gabriel Ganassia.
Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les économies se construisent sur des modèles complètement différents. Par exemple, on va, pour vous proposer de la publicité, non plus vous proposer de la publicité générale, qui a un taux de retour, pour employer les langages usuels, qui est relativement faible, parce que bon, chacun, vous avez vos préoccupations, vous êtes plus jeune, etc. Et donc, on va vous proposer exactement ce qui vous concerne. De même, on peut essayer de, si vous achetez un billet de train, de regarder un peu qui vous êtes. Et on imagine, on commence à imaginer que les prix eux-mêmes évoluent en fonction de ce qu'a été votre propre parcours et votre propre comportement.
Donc là, c'est une manière de ce qu'on peut appeler le profilage, de façon générale, c'est-à-dire d'anticiper, vraiment, on finit même par anticiper d'une certaine manière, pour utiliser un autre mot, de téléguider de la façon la plus soft et inconsciente vos moments de décision et vos moments de choix. Est-ce que c'est ça ?
Alors, c'est ça, et ça a à la fois des applications commerciales que j'ai évoquées ici. D'ailleurs, peut-être avez-vous fait cette expérience quand vous avez, sur Internet, posé un certain nombre de questions. Vous essayez des lunettes, par exemple, et puis ensuite, pendant 15 jours, vous allez avoir des publicités sur les lunettes parce qu'il y a des sociétés, alors en particulier une société française qui s'appelle Criteo, qui travaille beaucoup là-dessus, qui essaye d'interpréter vos requêtes et ensuite, à partir de ça, de vous proposer les publicités qui sont liées aux requêtes. Mais bien sûr, ça va plus loin. C'est-à-dire que dans l'ordre politique, on a des choses comme celle-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va gouverner à partir de cela. Obama, par exemple, au moment de sa campagne électorale, a su merveilleusement utiliser les nouvelles ressources d'information pour essayer de cibler les personnes qui étaient susceptibles de basculer. Il ne s'intéressait pas à ceux qui étaient démocrates depuis toujours, il ne s'intéressait pas à ceux qui étaient républicains de toujours, mais il s'intéressait à ceux qui ciblaient. Ensuite, il utilisait les informations qu'il avait pour essayer de trouver parmi ses militants ce qui était le plus proche de la sensibilité des personnes qu'il voulait convaincre. Et ça a remarquablement marché.
Est-ce qu'on appellerait ça de la gouvernance algorithmique, là, juste pour donner un terme à ce que vous venez de dire? Donc ça serait cette malice-là. Alors il y a aussi un autre aspect, il y en a d'innombrables. Et dans la préparation de cette table ronde aujourd'hui, je me suis rendu compte que c'était vraiment, vraiment tentaculaire et que c'était en mouvement permanent. C'est un constat d'ailleurs qu'on s'est tous fait. Ça n'arrête pas, c'est incessant de la création. Il y a donc aussi la prise de données personnelles. Et là, on va voir tout à fait autre chose apparaître. Et on voit en particulier l'appétit féroce de Google pour avoir des informations concernant la santé. Concernant la santé, il y a très exactement aujourd'hui 504 logiciels sur le marché qui peuvent enregistrer toutes vos données, les standards, votre tension, la manière que vous avez de vous déplacer si vous faites une marche tous les jours, ainsi de suite. Donc il y a là une activité, encore une fois, captatrice, qui d'une certaine manière, va finir par faire peur. Alors, vous avez, Jean-Gabriel Ganassien, travaillé sur un concept que je trouve très, très intéressant, que je lance tout de suite. Évidemment, tout le monde a vu l'initiative de Wikileaks, qui, avec Assange, qui d'un seul coup met sur la place publique un certain nombre d'informations, en ayant la vigilance extrême de ne pas mettre en danger les lanceurs d'alerte. Et on a vu que les choses ont commencé en mettant à mal une banque en Suisse, mais les choses se sont perpétuées. Le 6 juin 2013, c'est cette fois Snowden qui, quittant son bureau, travaillant pour une agence affiliée à la NSA, à l'organisme de la sécurité américaine, part avec 50 000 documents, et qui vont faire le bruit que l'on sait. Alors, la question est la suivante autour de ce concept. Il y a donc une capacité à travers ce web tentaculaire de surveillance permanente. Mais il y a aussi la volonté de garder quelques aspects privés de notre existence. Et il y a aussi une manière peut-être de combattre contre ce monopole permanent. Et donc je lance le mot, c'est, vous avez suggéré le terme de sous-veillance. Qu'est-ce à dire ? Jean-Gabriel Ganassia.
Alors, cette notion de sous-veillance a été introduite par un technologue américain spécialiste d'informatique vestimentaire qui s'appelle Steve Mann et qui est à l'origine de ce qu'on appelle les Google Glass. Alors, vous savez peut-être que Google développe depuis quelques années des dispositifs qui vous permettent d'enregistrer en permanence le champ de vision qui est le vôtre et votre champ auditif pour constituer à la fois des archives individuelles de votre vie et éventuellement pour échanger avec d'autres personnes. Et à partir de ça, donc, ce que dit Steve Mann, c'est qu'on passe dans un monde où la production d'informations, la captation d'informations et la diffusion d'informations étaient réservées à des institutions extrêmement puissantes. Aujourd'hui, avec les technologies, n'importe qui peut prendre des informations. Et donc, on passe d'un monde de surveillance où celui qui prenait l'information était au-dessus, il avait le pouvoir et l'information lui servait à conserver le pouvoir. Tandis qu'aujourd'hui, n'importe qui peut prendre l'information. Donc, ceux qui sont sous l'autorité peuvent prendre de l'information et mettre en cause l'autorité elle-même. Bien sûr, la conséquence de ça, c'est que la masse d'informations est considérable. C'est ce que j'ai essayé d'exprimer,
oui,
d'exprimer
début,
tout à l'heure. Sûr. Or, nos capacités cognitives sont limitées. Nos facultés d'interprétation de toutes ces informations sont réduites. Et donc, nous sommes perdus. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Bien sûr, il faut arriver à mettre en valeur ces informations. Au fond, on passe d'un monde dans lequel voir donner du pouvoir, pouvoir c'était voir, et la vue vous accroissez votre pouvoir, à un monde dans lequel être vu bien sûr dans des situations qui vous mettent en valeur, contrôler l'image que l'on donne devient importante, et le pouvoir c'est être vu. Ça veut dire que du point de vue politique, on va avoir des transformations majeures, c'est-à-dire que les stratégies du pouvoir ne sont plus les stratégies de gommage d'informations, de caviardage, comme nous avions pu avoir pendant longtemps, parce qu'on ne peut plus le faire. Tout est là. Mais en revanche, les stratégies de pouvoir, il n'y a pas de droit à l'oubli, c'est une parenthèse, mais ça ne peut pas exister, vous l'aviez dit au début. Mais en revanche, les stratégies, ça va être du leurre, on rajoute de l'information inutile. Et donc, c'est effectivement comme ça que l'on va faire. Alors des gens comme Julian Assange, que vous avez évoqué, ils sont partis de cette idée que le mauvais, c'était le pouvoir, la surveillance était néfaste, donc il fallait lutter contre ça. Ils ont commencé par diffuser des logiciels de cryptage d'informations. On a oublié que le cryptage était quelque chose d'interdit dans des États comme le nôtre, tout devait être transparent pouvoir. Donc ils ont autorisé tout le monde à avoir du cryptage d'informations. Et ensuite ils ont dit, on va développer la surveillance, c'est-à-dire qu'on va donner les informations sur les puissants à tout le monde, les mettre en libre accès. Donc Julian Assange a commencé à donner de l'information sur des dictatures, et puis ensuite il est allé jusqu'à mettre en cause les pratiques de la diplomatie américaine.
Alors je crois que maintenant on peut passer aux différentes réactions que vous allez avoir, puisqu'on a à peu près lancé le tableau. Malheureusement, il est lacunaire. Malheureusement, par rapport à l'immensité de la chose, ça n'était que quelques points. Gérard Béré, qu'est-ce que vous avez à dire? D'abord, j'ai envie de vous lancer sur la responsabilité du scientifique, parce qu'on se retrouve là, d'une certaine manière, avec la question habituelle, c'est-à-dire que le couteau, ça peut être tout à fait positif dans son utilisation, ça peut permettre de couper sa salade, et puis ça peut permettre de tuer son prochain. Alors donc, est-ce que les algorithmes et leur utilisation, ce sont deux choses bien distinctes, c'est-à-dire d'un certain point de vue, il y a la technique avec sa neutralité, et puis il y a aussi les modes d'emploi. Est-ce qu'on peut dire les choses comme ça, Gérard Béré?
Ah oui, c'est une question éternelle, la responsabilité du scientifique. Je pense que on est même à une époque où elle va devenir beaucoup plus grande que maintenant. Ah. Parce que je voudrais continuer un peu ce que disait Galassia. Il a parlé de... Je vais parler de responsabilité dans un autre monde, justement.
Oui.
Il a parlé du monde à venir. Il a parlé du web, et essentiellement du web des documents humains. Donc on est à l'heure actuelle dans le web des documents humains. Google, ça cherche dans le web des documents humains. Mais ce n'est pas forcément ça qu'intéresse Google à terme, parce que le web des documents humains, il n'est pas fini, loin de là, bien entendu. Il s'en crée tous les jours. Mais vu que tout le monde est dessus, il est, il est quand même assez mûr. Ce qui va être beaucoup plus important, et je pense qu'il faut que tout le monde le comprenne tout de suite, c'est que les informations qu'on cherche à avoir maintenant ne sont pas des informations que les humains donnent consciemment. Ce sont des informations que les humains donnent inconsciemment.
C'est ça.
Alors, je donne et qui sont beaucoup plus importantes quelque part. Je donne un exemple tout bête pour montrer la possibilité de faire quelque chose de bien ou quelque chose de pas forcément bien avec les mêmes informations. Vous prenez le métro à Paris, on est à Paris, vous prenez le métro, vous avez un pass Navigo. La RATP sait où vous passez, par où vous rentrez dans le métro, quel voyage vous faites, etc. Ça, c'est d'un côté, c'est une très bonne idée parce que ça permet de mieux comprendre les réseaux de transport, ça permet d'améliorer la dépense énergétique. Par exemple, ça va être fait pour les voitures, vous serez en voiture, votre voiture déjà, donc pour les voitures récentes, vous ne le savez sans doute pas, mais déjà surveille la façon dont vous conduisez, dont vous accélérez, dont vous freinez, prend plein de renseignements là-dessus et peut parfaitement envoyer ces renseignements aux fabricants de la voiture. Et ça peut être très intéressant pour comprendre comment améliorer la consommation énergétique des voitures. Ça peut être très, très bien, par exemple, si c'est anonymisé. Si ce n'est pas anonymisé, c'est extrêmement différent. Parce que
si ce n'est
pas anonymisé, absolument plein de gens peuvent savoir où vous êtes. Alors, il y a quelque chose qui est un peu terrorisant pour les gens qui ne l'ont jamais vu, c'est vous allez sur votre ordinateur ou votre téléphone. Sur votre téléphone, vous le savez. Sur votre ordinateur, vous ne le savez pas forcément. Vous demandez « Où suis-je ?» Et si vous le demandez de la bonne façon, l'ordinateur vous le dit, où vous êtes. Mais ça veut dire qu'il y a énormément de gens qui savent où vous êtes. N'importe qui peut savoir où est mon ordinateur dès que je me branche, en gros. Hein. Donc, est-ce que c'est une bonne idée, ça? Ce qui est important pour les scientifiques comme moi, c'est de dire ça aux gens. Parce que pour l'instant, ils ne choisissent pas les gens, ils ne savent même pas que c'est vrai. Alors, on peut trouver ce qui est une très bonne idée. Par exemple, on va avoir des puces informatiques dans le corps, et ça existe déjà pour le diabète, ça va exister pour d'autres maladies, et c'est tout à fait utile. Avoir des puces, il y a longtemps qu'on met des puces dans les chats, ça m'a toujours fait rire avant de leur enlever. On met des puces dans le corps pour, par exemple, faire un monitoring de la santé. Ça pose des tas de problèmes. Par exemple, à l'heure actuelle, un médecin n'a pas le droit, légalement, un médecin n'a pas le droit de vous appeler parce qu'une puce lui a envoyé un message disant qu'il faudrait qu'il vous appelle. Il n'a légalement pas le droit. Bon, heureusement, ça ne gêne pas trop. Mais ces données, elles vont aller où et chez qui? Est-ce qu'elles seront anonymes? Est-ce que n'importe qui de la salle aura le droit de dire les données médicales des autres? Est-ce qu'on sait garantir l'anonymité? Ça, ce n'est pas fait. Hein, ce n'est pas fait du tout. Ce n'est pas du tout évident comme problème. Toutes ces questions-là, la responsabilité du scientifique, c'est de dire aux gens, eh bien, écoutez, il y a ça qui se fait. C'est pas que ça se prépare, c'est que ça se fait. Hein, vous inquiétez pas. En France, les gens ne sont pas trop au courant. En France, on a toujours un retard massif sur l'informatique. On est déjà le seul pays à ne pas avoir de construit d'ordinateur après la guerre. Et on continue notre retard. Il y a une société française dans les 100 premières mondiales. Et il y a zéro ferme de calcul majeure en Europe. Hein. Donc, il faut bien comprendre que nous, on est en train de suivre un mouvement sur lequel on n'a aucun poids. Donc, la responsabilité du scientifique, c'est dire aussi... Est-ce que vous voulez vraiment continuer à ce que tous les Français soient ignares en informatique, comme c'est le cas à l'heure actuelle? Est-ce que vous pensez dans le monde c'est une bonne idée? Nous, on a fait un rapport sur l'enseignement en informatique à l'Académie des sciences.
Bon, on peut se procurer d'ailleurs, sur le net aussi. Oui.
On va voir, il se passera peut-être quelque chose. Ce qui n'est pas du tout vrai en Angleterre, par exemple. Bon, voilà, la responsabilité du scientifique, c'est aussi de dire aux gens, voilà quelle est la réalité. Parce que cette réalité-là, vous ne l'apprendrez pas autrement. Et cette réalité-là, il faut pas, on a toujours l'impression qu'elle nous tombe sur la figure. Mais ça, c'est l'ignorance. Parce que cette réalité-là, les gens qui la fabriquent, ils savent parfaitement ce qu'ils font et ils le disent. Donc c'est juste qu'on n'a pas les oreilles branchées au bon endroit. Oui. C'est utile d'avoir les oreilles branchées au bon endroit.
Jean-Gabriel Ganassia, dans le même mouvement d'ailleurs, on peut se rendre compte que de façon mais invraisemblablement accélérée, Google rachète tout, beaucoup, beaucoup de start-up. C'est-à-dire que jusqu'ici, il était grosso modo dans le traitement de l'information. Et là, on le voit acheter des start-up, surtout sur l'automatique pour l'automobile. Quelle est sa raison? Certains analystes disent que Google est d'une certaine manière comme un trou noir. Hein, on sait qu'un trou noir est un captateur de lumière et que c'est un dévoreur, quoi, de façon absolument permanente. Et que là, son emprise, jusqu'où va-t-elle aller à travers ça?
Alors, première chose, je crois que effectivement, Google prend une place prépondérante, mais ce n'est pas le nom de Google en particulier qui importe. Hein. C'est-à-dire que il n'y aurait pas Google, il y aurait un autre moteur de recherche, il jouerait aussi un rôle très, 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 très important. Les gens de Google ont déjà compris très tôt que, puisque la réputation se calculait de façon algorithmique et qu'en même temps, celle-ci peut se défaire extrêmement rapidement, qu'il faut en permanence être à l'écoute, voire interpréter. Et tous les logiciels qui sont mis en place par Google sont ce qu'on appelle, en termes techniques, dans des bêta-versions. C'est-à-dire que ce ne sont jamais des choses qui sont terminées. Ça tire parti des ressources et des retours d'usage pour s'améliorer. Et donc, c'est un observatoire permanent.
C'est ça.
Et donc, Google est extrêmement attentif à ça. Il sait qu'il n'est pas éternel. D'ailleurs, c'est très intéressant parce que ça n'est pas le premier moteur de recherche. Et qu'on passe d'un capitalisme dans lequel les premiers avaient des situations monopolistiques et restaient en place, à un capitalisme dans lequel, au contraire, les situations sont très mouvantes. Et donc, ce qui explique la stratégie de Google, c'est qu'ils ont compris qu'il faut s'accroître, qu'il faut développer de nouvelles techniques pour essayer de rester sur le marché. Par exemple, ils ont acheter des logiciels de ce qu'on appelle le crowdsourcing, c'est-à-dire des techniques qui permettent de tirer parti d'avis que donne l'ensemble de la population. Vous avez un petit logiciel qui s'appelle Waze, que vous pouvez télécharger d'ailleurs, qui vous mettez sur votre voiture, il vous donne le chemin le plus rapide. Et il fait ça comment ? Parce que tous les gens qui ont Waze ouvert donnent de l'information, exactement ce que vient de dire Gérard Berry, c'est-à-dire que la vitesse des voitures est enregistrée de façon automatique et il sait qu'à partir de ça, quelle est la circulation. Et cette petite société qui avait fait ça a été rachetée très cher par Google. Donc ça permet de comprendre les stratégies de Google. C'est pas Google qu'il faut critiquer en tant que tel, c'est le danger effectivement de ce monde nouveau dans lequel nous sommes,
certes.
Où on laisse une place à des acteurs comme Google qui deviennent de plus en plus importants. Il y a d'autres acteurs, ils ont procédé à peu près de la même logique, qui est une logique d'études, de surveillance en permanence, des retours. Plutôt sympathique, a priori, mais qui, bien sûr, à terme, peut s'avérer extrêmement dangereuse.
Alors, malheureusement, le temps a couru. Je voudrais simplement de poser une question extrêmement ouverte à Nicole El-Khaoui. Vous avez parlé de monétique tout à l'heure et du danger qui apparaissait possiblement avec ça. On est devant une situation, et c'est comme ça que je lance ma question, on est devant une situation où, en tout cas, c'est son nom, Google, et c'est l'entreprise, et on peut la désigner, bien qu'il puisse y en avoir d'autres, comme vous venez de le dire. Est-ce qu'on peut imaginer qu'au bout d'un moment, il va y avoir une espèce de loi antitrust universelle, puisqu'il capte tout, Google ? Et donc, est-ce que c'est là le jeu de l'inquiétude ? Vous disiez, par exemple, que ce sont, il n'y a pas d'instance pour les agences de notation qui soit nationale. C'est laissé au privé pour les agences de notation. Et vous vous étonniez, dans un entretien que vous avez donné, sur le fait qu'on n'est pas confié au FMI, par exemple. Les cotations que donnent ces agences privées qui sont en connexion étroite avec les banques. Bref, qu'est-ce qui vous fait peur là-dedans ? L'avenir de Google, ainsi que son nom, mais avec tous ses apparentés et ses connexes, en quelques mots.
Ce que je pense, c'est que, comme on l'a évoqué dans différents aspects, on a vu que la politique a commencé à utiliser un certain nombre des outils que ça donne. La manière d'envisager l'économie, en fait, d'une certaine manière, les références standards sont en train d'être balayées. Et je suis d'accord qu'il faut communiquer, mais moi, j'ai essayé de communiquer un tout petit peu sur des questions associées à la finance. Bon, mais on a beau alerter les gens, en général, ça tombe relativement à plat. Donc, je pense qu'on est au bord... Donc, quand les marchés les marchés utilisent cette information pour essayer de mieux cibler leurs clients, etc. Mais ils font comme les autres, quoi. Mais quand tout le système économique et financier va être placé avec ce nouveau regard, la question un petit peu, c'est la question questionne nos références habituelles. Qu'est-ce que c'est que la démocratie dans un monde comme ça ? Quelle est la notion de prise de décision ? Comment est-ce qu'on légifère ? Est-ce que ça fait du sens ? Moi, je ne trouve pas que les choses sont nécessairement négatives. La chose, c'est que la donne change à une vitesse exponentielle. Je rappelais qu'il y a 20 ans, on était à 50 km de là. Et donc, à la fois, il faut aussi se mobiliser en tant que citoyen pour essayer de casser un peu les visions traditionnelles et essayer d'avoir des réponses dynamiques à un monde aussi mouvant, mais aussi excitant d'une
Très
certaine
bien.
Manière.
Bien, écoutez, mille merci. Merci à vous, Gérard Berry. Merci, Jean-Gabriel Ganassia. Merci, Nicole El-Khaoui. Merci aussi, bien sûr, à vous de votre attention et de votre présence nombreuse encore pour cette deuxième année de l'année vue par les sciences. Équipe technique Jean-Pierre Zing, Marc Gaven, Tanguy Le Corneau, Benjamin Thuot. Chargé de réalisation Anne de Pelchin. Chargé de production Jean-Philippe Thomas, Stéphane Delisgeorges. Bonne fin d'après-midi sur France Culture.